extrêmement intéressant de revenir une seconde fois hein, sur les questions qu'a abordées Françoise et peut-être de concevoir un deuxième séminaire finalement pour reprendre ces questions. Alors, moi, je ne vais pas commencer par parler. Hein. Il y a énormément de choses que j'aimerais dire, mais je pense que je les dirai. Je voudrais que maintenant, vous preniez la parole.
Hein. Ce que tu disais, et puis moi, je la rends immédiatement. Le poids, par rapport au thème de votre séminaire, et j'ai expliqué pourquoi j'en avais fait l'économie, parce qu'il me semblait qu'il fallait déjà présenter la double lecture de manière un peu cavalière, mais pour essayer déjà de placer situer les points de divergence, essayer de les comprendre dans des stratégies qui sont à la fois des stratégies philosophiques, mais qui sont aussi liées à des contextes socio-historiques et politiques différents. Mais le point aussi essentiel, c'est que dès qu'il est question de modernité, de la question de la modernité, qui, pour Habermas comme Foucault, est toujours liée à la question de l'Aufklärung, hein, ça, la modernité, c'est toujours lié à cela, il y a immédiatement rapport à la question de l'art et du jugement esthétique. Ça, donc voilà. Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi il en est ainsi? Mais ça, il faut remonter aussi à la question de la naissance de l'esthétique au XVIIIe. Pourquoi ça a été le terrain, je dirais, d'observation finalement de cette question de l'autonomisation, de la possibilité de penser l'autorité et la liberté, la norme et l'autonomie, etc. Bon. Donc là, c'est le point que je ne voulais pas aborder aujourd'hui parce qu'il y avait trop de questions.
Non, mais je crois que c'est quand même un point très très important qu'on peut quand même peut-être un tout petit peu déjà lancer sur le tapis. Parce que ce que Habermas comprend quand même bien dans Foucault, hein, c'est la manière dont Foucault analyse, on va dire, l'histoire de la pensée moderne, hein, en disant au fond, avec Kant, ce qui est avéré, c'est l'impossibilité d'une connaissance de soi. Hein, c'est-à-dire la connaissance de soi est impossible. Et que dans cette espèce de frustration, hein, je crois que c'est même le mot qu'emploie Habermas, dans la frustration de cette connaissance impossible de soi, va s'opérer une espèce de dérivation ou de compensation, hein, ou de déplacement, qui va faire en sorte que la question du savoir impossible se transforme en question du pouvoir. Et que derrière les opérations de savoir se joueront toujours, au fond, des opérations de pouvoir qui visent à compenser un pouvoir, une impuissance. Et ça, je trouve que c'est effectivement c'est une analyse assez forte de la modernité. Hein. C'est-à-dire que l'échec fait à la connaissance de soi par Kant et l'impuissance à quoi Kant confronte finalement l'individu moderne active hein, ou réveille l'idée que, au fond, cette réflexion du savoir à des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire de récupération d'une puissance ailleurs.
Oui.
Et ça, je crois que c'est assez juste, sauf qu'il me semble que chez Kant, là où il y a effectivement un point de dérivation où quelque chose de la connaissance de soi, finalement, se récupère, ce n'est pas sur le mode de la connaissance, on en a beaucoup parlé la fois dernière, c'est sur le mode du sentiment et de ce que Kant appelle le pouvoir de désirer. Et donc, chez Kant, finalement, c'est bien une mise pratique, hein, critique de la raison pratique. C'est-à-dire que là où il y a une espèce de, un au-delà de l'impuissance chez Kant, c'est au niveau d'une pratique, hein, c'est au niveau de la raison pratique. Et ça n'est pas simplement quelque chose comme une frustration d'un savoir impossible. C'est-à-dire que Kant pense bien quelque chose comme un déplacement positif, et pas seulement un déplacement réactif. Ce que ne voit pas, je crois, Foucault. Et pourtant, c'est quand même dans cette perspective que Foucault travaille lorsqu'il travaille sur les techniques de soi.
C'est vrai.
Voilà. Donc c'est ça qui fait toute l'ambiguïté de la chose, hein, et tout son intérêt, je trouve. Hein. Voilà.
Je te répondrai une chose, ou j'ajouterai une chose, parce que ce que tu viens de dire sur le fait qu'on ne peut pas se connaître soi-même, cette espèce de limitation qui intervient, fait qu'il se passe quelque chose qui, du coup, fait que le savoir est un savoir qui s'objective, hein, puisque avec les limitations qui sont les siennes, mais tu as une objectivation du savoir. En s'objectivant, le savoir, du même coup, se rationalise comme savoir. Et alors, c'est là où Foucault reprend la balle au bon et que Habermas va concevoir les choses autrement, c'est que du coup, en se rationalisant, le savoir en se rationalisant se transforme en pouvoir, parce que qu'est-ce qui fait que ça se transforme en pouvoir? Le pouvoir, ce qui se transforme en pouvoir dans le savoir, ce n'est pas le contenu de ce savoir, mais c'est sa forme de rationalisation. C'est sa forme de rationalisation qui va se transformer en pouvoir. Par exemple, prenons un exemple. Prenons l'exemple, par exemple, de la psychiatrie. Hein? Il est indéniable qu'au XIXe siècle commence à se constituer une espèce de savoir sur la folie. Alors on peut considérer qu'il est très élémentaire, ça c'est un autre problème, hein, le jugement de valeur que l'on peut porter sur ce savoir. Mais en tout cas, il se constitue comme savoir. En se constituant comme savoir, évidemment, il s'objective, et comme c'est un savoir, il obéit à des procédures rationnelles, comme un savoir. On ne mélange pas du mythe, etc. Il se constitue donc en savoir rationnel. Et qu'est-ce qui fait que du coup il va y avoir par exemple de la coercition ou sur les fous dans les asiles, etc. C'est que c'est la rationalité qui sert à produire ce savoir qui devient pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ça s'exerce sur le malade. Ça s'exerce sur le malade mental. Voilà pourquoi il y a une espèce de conjonction entre savoir et pouvoir. Pour Habermas, il n'en irait pas de même, parce que finalement, ce savoir, lui aussi, il est bien d'accord qu'il s'objective, il devient rationnel, etc. Mais, comme il y a, et tu as bien dit, il y a une espèce d'idéalisme, il y a quand même une espèce de confiance chevillée au corps dans quelque chose qui serait de l'ordre du progrès. Dans l'ère du progrès. Donc, ce savoir ne peut pas se transformer, plus exactement, la rationalisation qui est en œuvre dans la production de ce savoir ne peut pas se retourner en un pouvoir coercitif, mais au contraire, en quelque chose qui est plutôt libérateur. Et donc là, ils ont deux visions assez différentes de ce qui est en œuvre et des processus qui s'opèrent à partir de là. Mais c'est vrai que tout ça part de leur lecture de Kant. Hein.
Absolument, absolument. Alors, ouais, Lambe.
Lambert Dousson. Alors, moi, en fait, c'est le. J'ai une question par rapport au terme de transgression, parce qu'il me pose un problème dans les rapports de Kant et de Foucault. Parce que quand je pense à Kant et à la transgression, ça me fait dire, en fait, que ce qui est transgressif chez Kant, c'est la liberté du sujet autonome par rapport au déterminisme universel. Et pourquoi ? Parce que la liberté, c'est un arrachement du sujet au déterminisme. Et justement, c'est dans la liberté que j'atteins un certain savoir de moi-même qui a été mis en échec dans la critique de la raison pure. Et c'est là où, en fait, on rejoint d'une certaine manière l'esthétique, parce que, si je me souviens bien, dans le paragraphe 59 de la critique de la faculté de juger, Kant dit que le beau est le symbole du bien moral. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'analogie entre l'arrachement que le beau produit en nous par rapport à la sollicitation pathologique des sentiments et donc du déterminisme. Cet arrachement-là, il est analogue à l'arrachement que constitue la liberté par rapport au déterminisme. Et c'est parce que... ça renvoie à cette idée que le bien moral, la loi morale, c'est... ce qui nous fait savoir qu'on est libre. Puisqu'on sait qu'on est libre, mais on ne sait pas ce qu'est la liberté. Et donc là, il y a un truc d'arrachement de transgression. Mais mais la transgression chez Foucault, je ne suis pas sûr qu'elle existe hein, réellement. Il y a un texte de lui chez Blanchot qui s'appelle « Préface à la transgression ». Et justement, il y a une préface, mais il n'y a pas de transgression en elle-même, dans la mesure où je crois que le processus de subjectivation chez Foucault, c'est pas des processus de sortie du pouvoir. C'est en fait, ils sont jamais indissociables de l'assujettissement aux normes. Et c'est pour ça que ça me pose le terme de transgression me pose un problème. Je pense que dans les techniques de soi, il y a de l'invention, il y a un jeu avec les normes, mais il n'y a jamais une sortie hors des normes. Donc c'était un peu ça la question que je posais. Est-ce que le terme de transgression peut, dans quelle mesure il peut rester légitime dans la problématique qui est celle du séminaire sur les pratiques? Est-ce que les pratiques peuvent être transgressives? Parce que au début, Foucault, dans l'histoire de la folie, quand il parle d'Artaud, etc., il y aurait quelque chose qui est de l'ordre de la transgression, mais après, il s'est désavoué avec toute la polémique, avec Derrida, etc., sur de quel point de vue on se place. Et après, il ne parle plus vraiment de transgression. Il ne se met plus de l'autre côté, en fait. Donc c'est ça.
Mais la question, c'est de savoir... Est-ce...
Oui, en fait, Foucault continue à en parler. D'ailleurs, il en parle dans le texte hein, dont nous parlons, mais... est-ce que véritablement cette transgression est transgressive hein? c'est plutôt ça la question. Françoise.
Oui, mais je ne crois pas l'avoir employé.
Non,
c'est moi qui l'ai employé.
Ouais, parce que moi, ce n'est pas un mot que j'accole à Foucault, justement. Je serais plutôt d'accord avec vous. Dans ce que vous dites, il y a une chose sur laquelle je pourrais revenir. Je reviendrai sur Foucault et le processus de la question de l'assujettissement. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que le procès de subjectivation chez Foucault? C'est pas simple, parce que lorsqu'il dit que la question du sujet a toujours été au cœur de ses préoccupations, et d'une certaine manière c'est vrai, mais il faut refaire tout le parcours pour essayer de comprendre véritablement ce qu'il entend par là. Mais avant d'en arriver là, il y a une chose que moi je ne lis pas chez Kant, mais peut-être que je me trompe. C'est pour ça que je disais que le projet habermasien d'arriver à conjuguer l'éthique et le politique par l'agir communicationnel me paraissait peu qu'ancien, et j'ai insisté sur le fait que la communauté éthique et la communauté politique n'étaient pas des communautés de même nature. Et je crois, mais encore une fois, il faudrait que je refasse ce que je n'ai pas fait, une lecture, reprendre vraiment tous les textes, je reconnais que je ne l'ai pas fait, et en tant que je ne me suis pas replongé dans la métaphysique des mœurs, je ne crois pas qu'il y ait de liberté par rapport à la loi morale. Par exemple, il n'y a pas de liberté par rapport à la loi morale, parce que la loi morale est quelque chose qui nous est intérieur et qui, d'une certaine manière, fait partie de notre liberté. Hein, mais il n'y a pas de liberté à l'égard de cette loi morale. Alors, ça pose déjà ça pose un problème. Alors maintenant, la question du sujet. Parce que quand on regarde des ouvrages que personne, d'ailleurs, ne veut plus citer, c'est un ouvrage, pour moi, qui a été extrêmement important, quand on regarde « Les mots et les choses », on s'aperçoit que la question du sujet se pose dans des termes qui seraient plus proches de jeux de langage ou soit de jeux de langage, soit de travail des discours. C'est une espèce de production. Hein, qui relève des discours, de ce qu'il appellera des épistémés. Mais on ne voit pas de sujet de ces énoncés, par exemple. D'ailleurs, à un moment donné, il emploiera un peu plus tard, de façon non philosophiquement précise, et surtout non philosophiquement critique, la notion de « nous ». Et Rorty lui dira « mais qu'est-ce que c'est que ce « nous » ?» qui intervient comme cela. Et là, il sera extrêmement gêné, parce qu'il ne sait pas du tout
à quel type de sujet renvoie le nous dont il parle. Alors, je crois que c'est vrai qu'il s'est posé la question du sujet, sans doute d'abord dans un contexte structuraliste qui n'était pas tout à fait le sien, mais avec lequel il flirtait, puis de plus en plus comme souci de soi, hein, rejoignant alors des perspectives qui sont entre une forme d'éthique, mais je vois aucun moment kantien dans la façon dont il va penser ça. Je ne vois chez lui aucun véritablement moment où ça se penserait en des termes kantiens. Il n'est pas non plus dans la perspective althusserienne qui fait qu'il n'y a que de l'assujettissement non plus. On ne sait pas très bien comment il va le faire émerger, hein, sinon dans les derniers ouvrages, sans trop s'en expliquer, me semble-t-il.
Oui, pour moi, ça renvoie à l'énigme du rapport entre, disons, ce qui est de l'ordre du discursif et de la pratique dans ce qu'il appelle énoncé.
Oui, oui.
On sait bien que dans l'énoncé...
Mais ils n'ont pas de sujet, ces énoncés.
Il y a du discours et il y a de la pratique.
Oui, mais il n'y a pas de sujet.
Oui, mais ça fabrique du sujet.
C'est ça, c'est ce que je disais. Ce sont
des opérateurs de subjectivation.
Ça, c'est le moment des mots et des choses.
Mais sauf qu'on a beaucoup de mal, effectivement, à penser ce qu'il en est du sujet à partir du moment où cet opérateur de subjectivation lui-même est aussi indéterminé.
Voilà,
c'est un peu ça le problème. Hein. Donc on a du mal à situer quel type de sujet ça déduit.
Oui, oui, absolument.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a forcément d'autres questions. Oui.
Donc, je m'appelle Frédéric Pouilloud. Je souhaitais revenir sur le fait de la séparation entre la notion de communauté éthique et communauté politique chez Kant, et peut-être essayer de l'articuler à la question de savoir pourquoi la question de la modernité s'est très tôt pensée et focalisée sur l'esthétique, de façon première et puis de façon récurrente, quand on voit Habermas. Avec l'idée suivante que... ce hiatus entre communauté éthique et communauté politique chez Kant, grosso modo la communauté des êtres rationnels et libres et d'autre part la communauté des citoyens réels, également pathologiques, qu'on doit dresser, mater, etc. Que ce hiatus-là, dont on espère qu'il se réduise à l'horizon avec le despote éclairé, etc., ce hiatus-là... il essaye malgré tout, dès la critique de la faculté de juger, d'être pris en charge par une troisième communauté, qui serait la communauté esthétique. À travers la notion, bon, déjà de sens commun, et puis de toute façon dans l'architectonique même des trois critiques. Je ne vais pas refaire le coup du pont au-dessus de l'abîme, mais c'est le jugement comme lien entre l'entendement et la raison, ou la finalité comme lien entre la nature et la liberté. Je voulais juste, dans cette sorte d'articulation que je faisais entre communauté esthétique et pourquoi la modernité essaye de se rapporte à elle comme lieu possible d'une résolution de ses antinomies, je voulais juste rappeler ou mentionner comment, immédiatement après l'apparition de la critique de la faculté de juger, c'est comme ça qu'elle est lue. Notamment par Schiller dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, où se pose directement la question des lumières et de leur effectivité. Et c'est par, alors on ne sait pas très bien ce que c'est que l'éducation esthétique de l'homme, mais c'est par cette éducation esthétique du citoyen que l'on va idéalement faire se recouvrir l'homme privé et l'homme public, l'homme qui n'est que cet être vivant au sein de la société qui est un être pathologique, et puis l'homme public qui, dans la version kantienne de Qu'est-ce que les Lumières, est du compte le penseur et seulement le penseur. Et on se demande en quoi l'ouvrier ou le paysan peut-il être un homme public, peut-être déjà en étant un homme esthétique. Et donc je pensais beaucoup aux lettres de Schiller et également au tout premier Fichte, qui, avant de rentrer dans les doctrines, dans toutes les grosses machineries métaphysiques des doctrines de la science, envisageait de prolonger son propre kantisme dans la lignée directe de la critique de la faculté de juger et de faire une esthétique avant de faire une doctrine du droit, par exemple. Donc, en lien avec le thème même du séminaire, je revenais à la façon dont ça s'est noué comme tel dès la toute fin du XVIIIe siècle. Comme je ne connais pas très bien Habermas, comment Habermas, justement, négocie-t-il ce rapport entre modernité et esthétique, sachant que l'esthétique ou la communauté esthétique pourrait presque être un concurrent à sa propre communauté de la communication rationnelle et de l'agir communicationnel. Voilà.
Que moi dire sur ce point, mais vous touchez vraiment à une question qui me préoccupe essentiellement en ce moment. J'avais même dit, tu vois, que je partirais de ça, je voulais montrer peut-être autre chose et souligner la façon dont on pouvait lire aujourd'hui de manière différente le texte de Kant. Alors, dans ce que vous dites est tout à fait passionnant. Ça n'a pas attendu Kant. Hein. Moi, j'ai travaillé sur, par exemple, Hume, la norme du goût, etc. Bon, on voit bien comment la question se pose déjà. Et c'est ce qui m'intéresse dans ces textes sur l'esthétique, parce que moi, je les ai toujours considérés, et je reprends exactement vos termes que je trouve excellents, comme une résolution des antinomies de la modernité. Moi j'appelais ça comme une sorte de terrain presque d'expérimentation, de possible résolution des antinomies qui se posent dans le politique et dans la constitution d'une communauté politique. Alors pourquoi l'esthétique? Mais là je vous dis, je travaille sans filet parce que je réponds comme ça, purement intuitivement. D'abord parce que, et c'est à deux niveaux, vous allez voir, ma réponse est à deux niveaux dont l'articulation peut se faire, mais reste pour moi à ce point encore problématique, ou disons en tout cas lacunaire. D'abord parce qu'on louche du côté de l'esthétique en tant que champ d'expérience intégrateur. Hein, bien sûr, il y a autonomie, mais on regarde autonomie des sphères d'activité, mais l'expérience esthétique peut apparaître encore comme un niveau d'intégration d'autres expériences en tant que s'y mêle justement de la rationalité, de l'affect, etc. Ça apparaît donc comme quelque chose qui peut être intégrateur et donc ça a un caractère privilégié. Mais ça a aussi un caractère privilégié à un autre niveau, parce que à partir du moment où le système des beaux-arts s'est effondré, où la question des normes, des critères, etc., et des appréciations est devenue affaire personnelle, individuelle, etc., alors, dans ce domaine-là, va apparaître une question essentielle, c'est-à-dire comment on peut penser ensemble la question de l'individualité, du caractère subjectif du jugement. Mon jugement, c'est pas simplement j'ai droit à mon jugement, c'est que mon jugement est vrai, puisque c'est un jugement. Et Hume insistera beaucoup là-dessus. Comment on peut donc faire avec cela, et comment, à partir ou avec cela, peut-on quand même constituer quelque chose qui serait de l'ordre d'une communauté de goût? Donc je crois que c'est un terrain sur lequel on peut expérimenter la difficulté propre à la modernité, qui se retrouvera évidemment sur le terrain le plus essentiel, qui sera celui du politique. Comment on peut essayer d'arriver à penser en même temps la subjectivité du jugement de goût et la possibilité de constitution d'une communauté esthétique. Parce qu'à quoi est-ce que ça touche? Comme je disais trop vite tout à l'heure, ça touche à une question fondamentale qu'ils se sont tous posée et qui, évidemment, sinon, menace tout système politique de sombrer dans le chaos, l'anarchisme, etc. C'est véritablement comment je vais pouvoir, et c'est le problème, pour moi c'est le problème essentiel de la modernité, comment je vais pouvoir concilier la liberté, du sujet, la liberté, l'autonomie, etc., la sortie de la tutelle, de sa minorité, etc. Comment je peux concilier cela avec quelque chose qui reste malgré tout de l'ordre d'une autorité, mais d'une autorité acceptable, puisqu'elle ne doit pas, elle doit pas entrer en contradiction avec sa liberté, c'est-à-dire d'une autorité rationnellement produite qui fait qu'elle n'entre pas en conflit avec sa liberté. C'est le problème auquel ils vont tous être confrontés. Et il me semble que le terrain de l'esthétique, c'est le terrain d'expérimentation le meilleur pour essayer de le penser. Vous voyez, c'est comme ça que je réponds. Et je me dis, c'est pour ça qu'ils s'y sont tous essayés. Ils s'y sont tous coltinés. Alors maintenant, pour Habermas, bon, je ne suis pas sûre que la question le préoccupe en ces termes-là. Elle préoccupera Adorno davantage dans ces termes-là. Mais Habermas, pas tellement. Je crois plutôt que l'intérêt qu'il va porter à la question d'esthétique, bon, d'abord, elle est dans le droit fil de la philosophie allemande, dont, bien évidemment, il est l'héritier. Mais surtout, il a l'impression, parce qu'il lit plutôt des penseurs de la nostalgie, que ce soit certains de l'école de Francfort, que ce soit même du Benjamin, même si, encore une fois, il a tort de le lire dans une perspective nostalgique, mais enfin, etc. Il lit aussi des gens qui déplorent ce qui est en train de se faire dans le domaine de l'art. Et je crois que s'il s'intéresse à la question de l'esthétique, c'est parce qu'il voit dans ce qui se fait actuellement une très forte menace contre l'esprit des Lumières. Et c'est en ce sens que ça l'intéresse. Hein ? Et donc, s'il faut revenir à la manière dont les Lumières ont pensé l'art, c'est parce que, en fait, ce qui se produit en ce moment sur la scène artistique est quelque chose qui menace profondément l'esprit de l'Aufklärung. C'est un des symptômes le plus évident de ce qui menace l'esprit de l'Aufklärung aujourd'hui, étant entendu qu'il est menacé ailleurs, etc. Mais c'est le symptôme le plus évident. Et donc on va s'attaquer à ça pour montrer, vous voyez, je crois plutôt que c'est ça. Et pas du tout pour y voir comme les autres une résolution à un problème constitutif de la modernité. Voilà, c'est ma réponse. Hein.
Madame Filaoki, je vous pose une petite question par rapport à votre dernière réponse. Vous parlez de menaces sur le projet des Lumières que Habermas perçoit dans l'ère du temps. Et j'aimerais bien que vous explicitiez quelles sont ces menaces, étant donné que nous avons beaucoup parlé des styles, courants, mouvements, manifestes et d'autres phénomènes artistiques dans la seconde moitié du XXe siècle.
Bon. Ça m'est difficile de parler à sa place, mais pour les textes que je connais, et je ne dis pas qu'il ait raison, ce qu'il entend par menace qui pèse sur l'esprit des Lumières, sur l'Aufklärung, c'est au fond tout ce qui apparaît comme contestation de la raison, mise en cause de la raison, soit les accusations portées à l'encontre de la raison, de la rationalité, accusée d'avoir produit les diverses catastrophes du XXe siècle. Hein, et là, il se situe dans le droit fil, je dirais, de Horkheimer ou de Adorno, la question de l'instrumentalisation de la raison, etc. Donc là, il voit quelque chose qui fait que, au vu et au su de ce que l'on croit que la raison a entraîné comme catastrophe, alors on essaie de s'en déprendre. Et pour s'en déprendre, vers quoi est-ce que l'on va? On va vers des penseurs qui, justement, ont joué je dirais, une autre carte, par exemple, la carte du dionysiaque contre Apollon, ceux qui se réclament d'un nietzschéisme, voilà. Bon, donc c'est ça qu'il entend par menace sur les Lumières. Vous voyez, c'est l'idée que c'est la raison qui est attaquée, qui est mise en cause, qui est accusée et dont on a envie, au fond, de se défaire. Hein, et là, il sent ce danger à la fois sur la scène politique, notamment en Allemagne, sur la scène intellectuelle, tout particulièrement philosophique, et ça plus en France qu'en Allemagne, mais en Allemagne ça se dessine après la France, sur la scène, je dirais, de la pensée de l'histoire et sur la scène esthétique. Sur la scène de la pensée philosophique, par exemple en Allemagne, il sait à quel point, dans les années qui ont suivi l'immédiate après-guerre, nombre de penseurs allemands se sont au contraire crispés sur la question de la raison, jusqu'à d'ailleurs aller dans un sens qui n'est pas du tout kantien, mais aller vers une raison de type analytique. Et cela parce qu'ils avaient trop peur de ce... Bon, etc. Mais ils voient que maintenant, on a tout lâché. Sur le plan esthétique, alors il le verrait dans ce qu'il appellerait...
Historico-esthétique.
Alors là, il n'est pas très au fait de ce qui se fait, c'est pour le moins. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans ses textes? Il reprend des textes de conservateurs grincheux, comme Daniel Bell, etc., de ceux qui disent, avec le poste, c'en est fini. Parce que dans la modernité, il y avait justement encore la tradition critique des avant-gardes. Il dit, aujourd'hui, il n'y a plus de tradition critique des avant-gardes, et il reprendra à son compte l'idée du n'importe quoi qui a été asséné par des penseurs américains, que ce soit Bell, Lash, etc., et puis des penseurs aussi français et allemands. Là, alors franchement, il n'est pas très au fait. Hein. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il court les expositions.
Je suis sûre que le contraire, oui.
Alors, on reprend des documents, alors, déjà des années 60. Hein. Oui, en plus, oui. Ils sont très anciens, pour les arguments.
Bon, Gabriel Cabello, ça c'est très intéressant, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça exactement, parce que Habermas parle toujours comme philosophe, mais vraiment, il ne connaît rien de l'art contemporain. Et je pense que le texte fameux sur la modernité comme projet incomplet fut à coup de la Biennale de Venezia de 1981, surtout par rapport à l'architecture éclectique et tout ça, mais il va plus loin de ça, parce qu'il, par exemple, dit que, littéralement, que le surréalisme fait partie des faux projets de supération de la culture. Et on va retrouver, je pense que c'est Marcuse qui est derrière ça, on va retrouver la désublimation répressive. Non, donc, ça c'est une chose très très intéressante, parce que quand on parle de la modernité dans la langue de Habermas, quel usage en esthétique on peut faire de ça?
À mon avis...
Et surtout dans la critique pratique, non, c'est plutôt la question.
Ça dépend ce que vous entendez par esthétique. C'est-à-dire que si on essaie de penser les productions artistiques d'aujourd'hui, ou même d'hier, voire d'avant-hier, à partir de ce que nous ont dit Habermas, moi je dirais, là vous n'irez pas très loin. En réalité, il ne pense qu'à partir de ce qu'ont écrit un certain nombre de penseurs, je vous dis d'abord... des penseurs réactionnaires, ça on sait, qui ont à un moment donné considéré comme phénomène soi-disant postmoderne et catastrophique ce qui était en train de se faire. Il les reprend à son compte sans aller y voir de plus près. Il reprend aussi pas mal de choses à la tradition de l'école de Francfort, de Adorno, etc., voire Benjamin, bon, je crois que ça sert pas grand-chose. Il reprend aussi à son compte, mais alors là, il y a une chose très étrange, parce que il n'interroge nullement l'ambivalence et l'ambiguïté de la pensée romantique allemande à l'endroit de l'art. C'est très curieux qu'il ne le... Oui, il ne l'interroge pas du tout. Oui, pas du tout.
Manuel.
Non, mais c'est exactement ça. Et en plus, ça peut être relié avec ce qui est dans les séminaires, non? C'est ce changement à coup de la version romantique de jugement, de la notion de jugement et tout ça. Non? C'est très intéressant, ça, aussi, en fait.
Par commodité, qui est un terme que je ne garderai certainement pas, en tout cas sous cette forme-là, ce que j'appelle l'illusion romantique, qui a conféré justement à l'art cette place exorbitante dans notre culture, en nous amenant à penser le modèle des révolutions politiques sur le modèle des révolutions esthétiques, bon, qui est une chose importante. Habermas ne le reprend pas pour essayer de l'analyser, pour essayer de le comprendre, pour essayer, en quelque sorte, de le déconstruire ou de le démonter. Pas du tout. Et là, on peut dire que sa pensée, même s'il cite souvent l'art, etc., je pense que sa pensée est assez décevante. Assez décevante. Et que la constitution d'une communauté esthétique n'est pas un de ses projets dans une modernité à achever.
Je voulais juste compléter
Je voulais juste relever qu'on pouvait envisager effectivement des projets d'esthétique qui se passent de l'art en quelque sorte, ce qui ne serait pas nouveau, et c'est un peu le cas d'une pensée comme celle-là. Ce qui n'empêche qu'elle peut resservir ceux qui travaillent sur l'art avec des arguments en les déplaçant. Christophe Domino.
Oui, je crois que cette affaire de communauté esthétique, c'est très important. Enfin, au sens où aujourd'hui, on aurait tendance un peu à l'hypostasier. On aurait tendance à penser que cette communauté esthétique, elle existe de facto, voire qu'elle pourrait se substituer à la communauté politique. Et je crois que ça, c'est véritablement une question qu'il faut interroger, en fait. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'intersubjectivité qui apparaît dans la troisième critique ? Quel est le rapport entre l'expérience de soi, hein, qui se fait à travers la raison pratique, le sentiment, hein, ce qu'on a analysé, l'expérience du pouvoir de désirer, en quoi cette expérience, elle est par définition partagée, d'une certaine façon, par définition intersubjective. Hein. Ça, c'est quelque chose à quoi Kant ne répond pas du tout. C'est une question que Foucault n'aborde absolument pas. Et c'est une question que Habermas considère à la limite comme résolue, hein, d'emblée. Hein. C'est-à-dire qu'il réduit cette intersubjectivité au consensus sur les critères. Bon, on sait bien que ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Donc on peut dire que là, on est devant une espèce de chose entièrement à penser, à mon avis. Hein. Et par exemple, parce que chez Kant, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, l'accès à la liberté est forcément un événement, et même l'expérience esthétique chez Kant est pensée d'un côté comme un événement absolument singulier, au cours duquel, au fond, qui est le moment de la subjectivation, et simultanément, Kant fait comme si l'expérience esthétique se révélait au moment de la discussion intersubjective. Il y a ces deux, et les deux sont vrais d'une certaine façon. Enfin, les deux sont tenables. Hein. Là pour moi, c'est simplement une remarque pour dire qu'à mon avis, c'est un territoire qui est relativement vierge. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, je crois que j'aimerais bien qu'à un certain moment on discute de Rancière, hein, de l'idée de partage du sensible, parce que je crois que il apporte une réponse. Enfin, pour moi, c'est pas une réponse, parce que je veux dire, c'est une réponse qui est donnée avant la question. Enfin, hein. Mais en tout cas, il y a certainement un moment à reprendre cette question, et je pense que ce serait tout à fait intéressant d'avoir une séance sur communauté éthique, communauté politique, communauté esthétique, avec un débat où on inclurait Rancière finalement, hein, dans le dire dans notre matériau.
Voilà. Oui, mais je voudrais juste ajouter un mot sans trop rallonger notre séance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un souci pour Foucault, d'abord parce que la question de la constitution d'une communauté, qu'elle soit politique ou esthétique, est évidemment quelque chose qui n'est pas son problème. Comme je l'ai dit, son problème, c'est la question justement du pouvoir, ce qui n'a strictement rien à voir, et pas du tout la constitution d'une communauté politique ou esthétique. Alors, je dirais même que ça lui aurait fait horreur. Alors, maintenant, la question pour Habermas. La question pour Habermas, c'est que comme la communauté se constitue à partir d'une communication qui se fait entre des sujets qui acceptent de n'être que sujets conduits par la raison, on voit mal comment pourrait y entrer ce qui est nécessaire pour constituer une communauté esthétique, c'est-à-dire des choses qui soient de l'ordre du sentiment, de l'affect, du désir, etc. Alors évidemment, ça permet, comme tu le dis, de s'entendre sur des normes objectivables, mais on sait bien que le problème aujourd'hui, c'est justement l'impossibilité à découvrir, constituer de telles normes. Donc, bien évidemment, on tourne en rond. Alors, il peut bien y avoir une petite fraction dans ce qu'il pourrait envisager, à quoi il pourrait adhérer la critique kantienne, mais une toute petite fraction, et pour le reste, c'est absolument... ça ne rentre pas du tout dans ses préoccupations. Vous voyez ? Donc, c'est en ce sens que c'est décevant.
Oui, mais moi, je dirais quand même qu'à mon avis, c'est nécessairement décevant. Parce que les formulations, que ce soit du côté, à mon avis, de Habermas, de Foucault indirectement, et ou de Rancière, sont des formulations très datées, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte le fait que l'expérience esthétique, en fait, c'est une expérience esthétisée.
C'est vrai.
Et que ce qui fait aujourd'hui que notre expérience esthétisée, c'est-à-dire technologiquement complémentée, on va dire, hein, et par définition collective, c'est justement qu'elle passe par des technologies et que les technologies sont collectives. Et c'est ça qui fait qu'elle est collective, même si elle est individuelle.
Oui. Alors, de ce point de vue-là, Benjamin est plus intéressant.
Ah ben évidemment.
Non, mais c'est vrai. Ce que dit Benjamin est plus intéressant.
Que le point de vue.
On est d'accord.
Et finalement, dans un sens commun, et dans une nature universelle. Mais dans Benjamin, les processus historiques et à l'intérieur, et technologiquement, à l'intérieur, ça, c'est la différence.
C'est
clairement.
Ces problèmes-là.
Oui, alors d'une part, effectivement, je suis désolée, le cri du cœur, évidemment, m'a échappé. Mais je pense que c'est quand même intéressant de se retourner vers des auteurs comme Habermas, Foucault, Rancière. Non seulement parce qu'effectivement encore aujourd'hui c'est considéré comme, j'allais dire, une espèce de nec plus ultra hein, dans ces conversations-là, et que d'autre part il y a à se demander pourquoi c'est si difficile de penser le caractère technologiquement aidé, on va dire, hein, technologiquement assisté de notre expérience. Qu'est-ce qui fait que c'est si impensable que ça et qu'il y a cette espèce de régression, j'allais dire, presque automatique à l'idée que l'expérience esthétique, elle est forcément, j'allais dire, naturelle d'une certaine façon, hein, ou immédiate. Hein. Là, je pense qu'il y a une espèce d'hypothèse d'immédiateté hein, dans l'esthétique qui est une chose effarante, enfin effarante et passionnante. Enfin, pour moi, elle est moins effarante que passionnante à analyser. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même toujours important de faire ce pas en arrière, parce qu'on pourrait me dire, mais alors pourquoi on commence pas avec Benjamin et puis on continue. Je dis non, parce qu'en fait, on peut pas. Faire l'économie d'une analyse critique du débat tel qu'au fond il a encore lieu aujourd'hui dans la communauté intellectuelle.
C'est vrai.
Voilà. Hein. Donc c'est vrai que moi, pour moi, la deuxième partie du séminaire, ou plutôt le dépassement de Foucault entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas de dépasser qui que ce soit, mais enfin, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Foucault ne pense pas ça. Voilà. Pourquoi Foucault ne pense bien la technique du pouvoir, mais il pense pas l'expérience esthétisée,
hein, et
les techniques de soi comme elles également, enfin, les techniques de soi aujourd'hui, elles sont incomparables avec les techniques de soi des stoïciens. C'est parce que, précisément, elles sont faites par des cerveaux assistés, des perceptions assistées, etc. Et c'est là où ça devient intéressant, d'une certaine façon. C'est-à-dire collectif. Et où ça, on se rend compte que, d'une certaine façon, la situation avance.
Et non seulement, et il faut ajouter quelque chose d'autre, c'est que le texte de Benjamin, et tu as tout à fait raison de dire que c'est, ça introduit la question de la technique, et du coup ça introduit aussi quelque chose qui fait voler en éclats l'illusion romantique qui se trouve au cœur de la réflexion de Rancière et de tous ceux dont on a cité, à savoir que l'expérience esthétique est de l'ordre de la contemplation, etc., alors que Benjamin va nous dire que finalement c'est entré dans une phase, disons, non plus du recueillement, mais de l'attention distraite. Et ça aussi, ça change tout. Ça change tout. Hein, c'est pas une expérience qui est constitutive du processus de subjectivation, etc. C'est rentré dans une... Je pense que là aussi, il faut le méditer.
Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, on se rentre.
Sinon, eh bien, on se sépare. En remerciant encore Françoise pour cet exposé extrêmement intéressant, extrêmement fécond. J'espère que, de toute façon, je pense que tu vas revenir et j'espère qu'on continuera à parler de cette affaire de communauté éthique, oui, communauté esthétique, oui, communauté politique, parce que je crois que c'est vraiment au cœur de notre problème. Et on se dit, voilà, à vendredi, 2h, 14h30, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez.
Bon, écoute, moi aussi, je vais filer.